Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Herner.
Début décembre, à la demande de la justice américaine, le Canada a arrêté la directrice financière de l'entreprise chinoise de télécom Huawei, aujourd'hui libérée sous caution, avec interdiction de quitter le territoire canadien. S'en est suivi la semaine dernière l'arrestation en Chine de deux ressortissants canadiens. Dans quelle mesure ces affaires sont-elles le reflet d'un contexte international et d'une guerre économique entre États? Le droit est-il utilisé à des fins politiques? Bonjour Yves Nouvel.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit international économique à l'université Paris 2 Panthéon Assas. Tout d'abord, il faut rappeler en quoi consiste l'affaire Huawei, du nom donc de cette entreprise chinoise de télécom.
Oui, effectivement. Tout part à l'origine, d'une présentation PowerPoint, peut-être devrait-on dire d'un diaporama, présenté par la personne qui est directrice financière de cette entreprise, devant des établissements bancaires. Et dans le cadre de cette présentation, elle signale les rapports entre Huawei et une filiale qui travaille avec l'Iran. Les établissements bancaires qui écoutent cette présentation en font ensuite la description aux autorités américaines qui remarquent une présentation erronée. Présentation erronée imputée à la personne en question.
Présentation erronée, c'est-à-dire?
Dans le cadre du PowerPoint, c'est-à-dire qu'il y avait notamment des liens qui n'étaient pas suffisamment clairement décrits aux yeux des autorités américaines, qui impliquaient plus étroitement Huawei avec cette filiale que la présentation ne pouvait le laisser penser. Donc en clair, cette présentation qui est imputée à la personne au seul motif qu'elle a utilisé le mot « je », et donc selon, pour le moment, les autorités américaines, elle avait une connaissance personnelle de cette situation, eh bien cette présentation est présentée comme une fraude. Alors une fraude à quoi? Une fraude aux règles américaines interdisant le commerce avec notamment l'Iran, mais d'autres pays.
Alors c'est justement ça le problème, parce qu'on a affaire donc à une ressortissante chinoise. Elle est au Canada et elle viole une règle de loi américaine. Et c'est cela qui surprend. En quoi quelqu'un qui ne dépend pas a priori de la législation américaine, qui n'est pas aux États-Unis, peut être emprisonné suite à une demande de la justice américaine?
Le vrai point de difficulté de ce point de vue-là, c'est le caractère extraterritorial de la norme américaine. C'est-à-dire qu'elle prétend régir un rapport entre une société chinoise, plus précisément entre une de ses filiales et l'Iran, au seul motif que l'opération en cause s'est effectuée en dollars. Et là, on retombe dans le problème qu'on a déjà croisé de la BNP, c'est-à-dire que...
Le
problème de la BNP, en deux mots, c'est une condamnation à 9 milliards de la Banque française, motif pris de ce qu'elle avait dissimulé des rapports avec l'Iran, qui s'étaient déroulés encore une fois complètement en dehors du champ de compétence des États-Unis, mais qui avait un lien unique de rattachement avec les États-Unis, le dollar. C'est-à-dire que l'opération s'était effectuée en dollars et qu'à ce titre-là, elle faisait l'objet d'une compensation, c'est-à-dire qu'il y avait un intervenant qui, lui, était situé aux États-Unis.
Mais alors cela, est-ce légal, Yves Nouvel, vous qui êtes professeur de droit international économique?
Le problème est le suivant, c'est que de manière générale, les États peuvent étendre leurs compétences, sauf règles prohibitives.
Par exemple?
Eh bien, un État peut régir toute situation, sauf s'il existe une règle internationale qui prohibe une telle extension. Et dans notre affaire, la règle prohibitive, ce serait le fait de se déclarer compétent alors qu'il n'y a aucun rattachement raisonnable. Et là, pour le coup, eh bien, ça serait une compétence qui serait extraterritoriale et donc contraire au droit international.
Mais est-ce que la France pourrait décider d'une règle, je ne sais pas moi, par exemple le fait d'emprisonner toute personne qui vendrait du camembert au lait pasteurisé partout sur la planète? Est-ce que ce type de règle pourrait être édictée par l'État français?
Encore une fois, non, parce que justement, la règle prohibitive c'est du droit international, ce serait de dire que le rattachement n'est pas suffisant à un État, avec un État, en l'espèce la France, dans votre hypothèse, pour se prononcer sur cette question. Et donc, ce défaut de rattachement raisonnable rend la règle américaine vraisemblablement contraire au droit international.
Alors, donc ça, c'est effectivement une conclusion importante parce que la question qu'on se pose, Huawei est un géant des télécoms. Ce géant des télécoms menace Apple sur ses différents marchés. N'y a-t-il pas tout simplement du protectionnisme déguisé dans cette décision de la justice américaine? Parce qu'on se dit que toutes les entreprises qui ont commercé avec l'Iran ne subissent peut-être pas le même sort.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une coïncidence de temps curieuse. Parce que l'enquête et le mandat d'arrêt a en fait été délivré en août et dans la même période, le président Trump décidait d'un train de mesures de sanctions à l'égard de la Chine de 16 milliards, c'est-à-dire d'une hausse des tarifs douaniers, déclenchant d'ailleurs en riposte une hausse des tarifs douaniers de la Chine. Et donc, tout le monde a à l'esprit le fait qu'effectivement, des mesures dirigées avec... pour l'heure, suivant la décision canadienne, un fondement quand même qui ne paraît pas, disons, montrer un degré d'implication très forte de cette personne, ça s'inscrirait et dans un rapport de force entre Chine et États-Unis qui, pour le coup, là, est très visible.
Est-ce que l'Organisation mondiale du commerce ou une autorité supranationale pourrait tenter peut-être de mettre au pas ces velléités protectionnistes ou ce mélange des genres, Yves Nouvel?
L'OMC pourrait difficilement être sollicité parce que la base de compétences n'est pas évidente. En revanche, il y a quelque chose qui apparaît possible, mais auquel on est en train de tourner le dos, ce sont les fameux tribunaux arbitraux. L'accord entre les États-Unis et l'Union européenne qui avait été projeté à un moment prévoyait précisément l'existence d'un juge international capable de se prononcer sur la manière dont est rendue la justice aux États-Unis. Or, eh bien, on sait bien qu'on va un peu en recul de ce point de vue-là et donc, pour l'heure, nous n'avons pas de solution.
Merci beaucoup Yves Nouvel. Je rappelle que vous êtes professeur de droit international économique à l'université Paris 2 Panthéon-Assas.